L'Évangile selon Luc au chapitre 23. Luc 23, versets 33 à 46. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant, et les gouverneurs aussi se raillaient de lui avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, et lui présentant du vinaigre, et disant, « Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre répondant le reprit, disant, « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises, mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Or, il était environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure, et le soleil fut obscurci. Et le voile du temple se déchira par le milieu, et Jésus, criant à haute voix, dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et ayant dit cela, il expira. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, les versets 45 à 53. « Mais depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. » Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant rempli de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Évangile selon Jean, chapitre 19. Jean 19, versets 25 à 30. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait donc là un vase plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » Et ayant baissé la tête, il remit son esprit.
Le désir des frères de La Rochelle était de d'être occupés ensemble aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir méditer ensemble ce que le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il était cloué sur la croix. Et finir la journée en essayant de se dire, mais on s'est souvenu aujourd'hui de lui. Comment peut-on se souvenir de lui, non seulement une journée exceptionnelle comme celle d'aujourd'hui, mais tous les jours et peut-être à des occasions particulières. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi choisi dans la lecture, et on verra cet après-midi, dans l'évangile selon Luc, une autre parole du Seigneur avant d'aller sur la croix. Faites ceci en mémoire de moi. On a l'habitude le dimanche matin au culte d'être occupé des souffrances de Christ. C'est l'occupation de notre cœur, c'est le sujet de la louange, de l'adoration chaque dimanche. Mais peut-être qu'il est bon de s'attarder un petit peu sur ce que Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit lorsqu'il était là sur la croix. La nuit vient de passer, une nuit terrible pour le Seigneur Jésus. C'est la fin de sa vie sur la terre. Une nuit où il a dû affronter des combats terribles, où il a petit à petit vu tous ses amis le quitter et trouver devant lui que des accusateurs. Et le matin s'est levé et on va le conduire vers le lieu où il va être crucifié. C'est encore le matin, de très bonne heure. Et dans cette ville de Jérusalem, la rumeur s'est faite de plus en plus insistante. Et les foules accourent vers ce lieu. Ceux qui étaient ennemis se sont retrouvés ensemble pour être amis. Pilate, Hérode, les chefs du peuple juif aussi. Ceux qui étaient des pharisiens, ceux qui étaient des sadducéens, vont se retrouver ensemble et vont suivre ce cortège. Et nous arrivons sur ce lieu appelé le lieu du crâne, verset 33 de Luc 23. Et là, le Seigneur Jésus va être cloué sur une croix, entre deux malfaiteurs. Alors, il y a peut-être plusieurs manières de regarder cette scène. Et on va le lire au verset 47 de cet évangile selon Luc, chapitre 23. Et peut-être cela va nous parler à chacun. Verset 47 de Luc 23, nous lisons « Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant « En vérité, cet homme était juste. » Et toutes les foules qui s'étaient assemblées à ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient, frappant leur poitrine. Et tous ceux de sa connaissance, et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient loin, regardant ces choses. Trois catégories de personnes. Et peut-être ici, dans cette salle, il y a aussi ces trois catégories de personnes. Nous allons entendre parler Jésus aujourd'hui. Et ces trois catégories de personnes ont entendu Jésus parler. Le premier, c'est un centurion, un Romain. Et quand il entend et qu'il voit, alors son cœur est bouleversé. C'était certainement cet homme était juste. Et dans l'évangile de Matthieu, certainement celui-ci est fils de Dieu. Voilà la révélation. Il a découvert et il a cru. Voilà la conversion de cet homme. Et que le Seigneur permette qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas encore été touché au fond de son cœur par Jésus, et que avant ce soir, il puisse découvrir que celui dont nous allons parler, celui dont nous allons entendre parler, celui qui va nous parler, et que celui-ci puisse être touché dans son cœur et se tourne vers lui pour être sauvé. Et puis il y a toutes ces foules qui étaient venues, un spectacle pas ordinaire. Et quand on assiste à un spectacle, on ne peut pas être indifférent. Et ces personnes n'ont pas été indifférentes. Mais elles sont reparties comme elles sont venues, frappant leur poitrine, peut-être tristes de ce qui s'était passé. Trois hommes là, sur une croix. Un, on ne sait pas,
Oh, il y a deux malfaiteurs, c'est connu, mais celui du million ne sait pas trop qui il était. Et puis elles sont reparties comme elles sont venues. Et tant de gens dans ce monde ont entendu parler de Jésus, se sont peut-être interrogés qui était-il, et sont reparties comme elles étaient venues. L'indifférence, finalement. Et puis, il y avait ceux de sa connaissance et les femmes qui l'avaient accompagné. Oh, il est dit ailleurs, de la Galilée, et qui l'avaient suivi et qui l'avaient servi. Qui s'étaient entièrement dévouées à lui. Et elles sont là, elles contemplent et elles pleurent. Mais ce moment-là a profondément marqué leur vie, a engagé en quelque sorte leur vie encore plus. Et pour nous, oui, que ce soit aussi notre part, que notre cœur soit entièrement pour le Seigneur Jésus, et encore plus tout à l'heure qu'il l'a été jusqu'à maintenant. Alors, nous allons suivre aujourd'hui chronologiquement les paroles que le Seigneur Jésus a dites. Et il en a dit 7. Et on va les relever rapidement en introduction. D'abord, 3 avant un moment particulier qui est dans notre chapitre au verset 46, la sixième heure, c'est-à-dire midi. À cette époque, les heures commençaient à 6 heures, c'était la première heure du matin. C'était jusqu'à 6 heures du soir, 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. Et la troisième heure à la sixième heure, comme on voit dans Marc, le Seigneur Jésus à la troisième heure est sur la croix, c'est 9 heures du matin, jusqu'à midi, l'objet de la moquerie des hommes, on l'injurie, et puis tout à coup, à midi, à la sixième heure, c'est la nuit. Et 9e heure jusqu'à 3 heures. Alors, c'est un moment particulier là, et on y viendra tout à l'heure. Mais avant ce moment-là, il y a 3 paroles. La première que nous avons lue dans l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà le Seigneur Jésus qui s'adresse à son Père pour demander le pardon. Ensuite, la deuxième parole, c'est au verset 43. Il s'adresse à celui qui est à côté de lui et qui l'a reconnu. Il s'adresse à ce brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La troisième parole, nous l'avons trouvée dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Au chapitre 19 et au verset 26. Alors qu'il est sur la croix, il s'adresse au disciple qu'il aimait, c'est Jean, et lui dit « Femme », il s'adresse à sa mère, Marie, « Femme, voilà ton fils », puis il dit au disciple « Voilà ta mère ». Et puis c'est la sixième heure, ce sont les ténèbres pendant lesquelles le Seigneur va s'adresser à Dieu et il n'y aura pas de réponse. C'est pour cela qu'à la fin de ces 3 heures de ténèbres, il pourra dire, Père, verset 46 de Luc 23, dans Matthieu au chapitre 27, et en Marc aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Expression d'une extrême douleur. Et puis après, la neuvième heure, il y a 3 autres paroles. C'est dans l'évangile de Jean que nous les avons trouvées. J'ai soif, verset 28, verset 30, c'est accompli. Et finalement, dans Luc 23, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous avons désiré que nous puissions
suivre ces paroles les unes après les autres pour d'abord être occupé de Christ lui-même. Savoir pourquoi il a dit cela et quelles en sont les conséquences pour Dieu et pour nous. Et certainement que dans ces paroles, nous trouverons aussi des conséquences pour notre vie de chrétien. Alors nous ne savions pas trop comment résoudre ce problème. Est-ce que d'un côté nous pourrions être occupés de Christ, d'un côté voir les sept paroles et puis après voir un petit peu les conséquences pour nous dans la pratique. Mais il semble que ce serait difficile et en tout cas le risque de se répéter. Alors nous avons pensé que nous pourrions voir chacune de ces paroles les unes après les autres en essayant de voir l'ensemble du sujet de ce que le Seigneur nous donnera et puis ne pas revenir sur les différentes paroles. C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais ce sera sans doute mieux pour le déroulement de cette journée. Donc, que le Seigneur bénisse ses paroles, sa parole et que vraiment nous puissions toute la journée prier dans nos cœurs pour que nous puissions recevoir pour nous-mêmes, chacun pour nous-mêmes, ce que le Seigneur veut nous dire pour notre joie et pour notre accroissement spirituel.
En général encore, nous pouvons remarquer dans ces sept paroles la première, la centrale et la dernière s'adressent à Dieu lui-même. La première et la dernière sous l'appellation de Père, la centrale, mon Dieu, mon Dieu. Les prières du Seigneur dans les évangiles sont au nombre de 8, celles dont les expressions nous sont données. Toutes, à part celle de la 9e heure sur la croix, toutes s'adressent au Père, Père ou mon Père. Mais à la 9e heure, mon Dieu, c'est la seule qui nous montre le Seigneur s'adressant à Dieu sous cette expression « mon Dieu ». On verra le détail lorsque nous y arriverons dans le cours de cette journée. Et il y a effectivement quelque chose de très systématique dans ce que la parole nous révèle. La parole est ordonnée. Et ces sept paroles ne sont pas là ainsi comme en vrac. Il y en a bel et bien une première, il y en a une dernière, il y en a une centrale. L'ordre chronologique, on en a parlé à l'instant, peut être simplement mis en doute en rapport avec la deuxième et la troisième. Rien dans le texte ne nous prouve que celle qui vient d'être donnée comme étant deuxième n'est peut-être pas la troisième. Rien dans le texte nous le prouve, mais peu importe. Ce sont trois paroles qui précèdent la parole centrale. Et ceci a toute importance. Et cette parole centrale, celle-là qui nous retiendra et qui, certainement, devra le plus toucher nos cœurs. Dans cette nuit, la nuit où il fut livré, et en particulier lors de son procès, ce qui caractérise le plus le Seigneur, c'est le silence, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais l'évangile de Luc est le seul à nous révéler quelque chose d'une parole du Seigneur en montant au calvaire. Nous l'avons au verset 28 de notre chapitre. C'est la dernière parole qu'il a prononcée avant d'arriver au calvaire et d'être mis en croix. Et il est certainement utile de la relever sans lire le tout, mais seulement la partie du verset 28 qui commence cette parole du Seigneur. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Il ne demande pas, le Seigneur ne demande pas nos compassions sous l'aspect sentimental. Il demande notre foi. Mais vis-à-vis de ces filles de Jérusalem, représentant le peuple, et surtout le peuple futur, mais vos enfants, alors les compassions du Seigneur l'étreignent profondément lorsqu'il propose à ses filles de Jérusalem de pleurer sur elles-mêmes, le peuple, et sur leurs enfants, les générations futures de ce peuple qui déjà aujourd'hui a tant souffert et qui souffrira encore. Et c'est bien dans cet état d'esprit que le Seigneur se trouve là sur le calvaire, non pas pour lui-même, mais pour les autres. Les compassions du Seigneur sont là et elles s'expriment vis-à-vis des autres, et personne sur le calvaire n'a pu exprimer une parole qui soit directement une consolation pour le Seigneur. Des consolateurs, il n'en a point trouvé. On le verra en détail, une parole l'a quand même réconforté. C'est celle du brigand qui lui demande de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Mais même Marie, elle est muette. Elle est là dans une douleur muette. Elle ne peut rien dire et doit être consolée. Eh bien, que nous aussi, dans ces instants, lorsque nous sommes là comme transportés sur ce mont calvaire, que nos paroles et nos sentiments soit imprégné de cet amour qui rayonne de la croix.
Nous sommes maintenant placés devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a été crucifié, comme le frère Philippe l'a rappelé tout à l'heure, à la troisième heure. Il a été l'objet de la moquerie et de la violence des hommes jusque-là. De la sixième heure à la neuvième heure, de midi à trois heures de l'après-midi, la scène n'a pas eu de témoin parce qu'il y a eu des ténèbres sur toute la face de la terre, probablement, sur le pays entier. Christ, à ce moment solennel, n'est plus notre modèle. Il est notre sauveur. Il est absolument et entièrement seul. Et l'expression de la douleur suprême, la quatrième parole, présente quelque chose que nous ne pouvons pas sonder. De sorte que cette parole fait une sorte de division, de séparation entre les trois premières heures de la croix et les moments probablement fugitifs qui ont marqué la fin des heures de l'expiation et la mort du Seigneur Jésus. De nouveau, il est encore là notre modèle, de sorte qu'il est notre sauveur dans les heures de l'expiation, il est notre modèle avant les heures et après les heures de la croix. Et cela est d'une grande importance si nous désirons essayer de comprendre ce que peuvent être pour nous la portée spirituelle, l'enseignement moral des sept paroles du Seigneur Jésus sur la croix. Encore une chose, c'est que l'œuvre de Christ à la croix est une œuvre unique, qui a plusieurs aspects, peut-être même plusieurs phases, si l'on ose le dire. Mais si la parole les distingue, elle ne les sépare jamais, et nous n'avons pas à le faire. Il y a d'un côté les heures de l'expiation, où Christ a été frappé, comme on l'a dit, sans compassion et sans miséricorde, par un Dieu saint. Il est saint et il répond. Il appelle, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En même temps, il est soumis et il dit au psaume 22, « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Christ supporte en ce moment solennel des heures de l'expiation toute la colère de Dieu contre le péché. Il porte en son corps, sur le bois, les péchés des élus, non pas les péchés de tous les hommes. Il a aboli le péché par son sacrifice et il répond personnellement devant un Dieu saint des péchés des élus, des péchés de ceux qui viendront à croire en lui par la foi. Ensuite, il fallait la mort de Jésus. La mort était par l'homme, la mort ne pouvait être vaincue que par le Fils de l'homme, que par Christ lui-même. Il est entré dans la mort, non pas comme le salaire du péché pour l'homme, pour Adam, mais en vainqueur. Il est entré dans l'obéissance à la volonté de son Père, et fournissant, si l'on ose dire, au Père une occasion nouvelle de l'aimer, Jean 10. Mais il n'est pas mort sous la culpabilité du péché. Il n'est pas mort comme conséquence du fait que l'homme l'a crucifié. Il est mort de sa propre volonté qui s'identifie à celle de son Père. En même temps, le sacrifice de Christ, le vrai agneau pascal, l'agneau de Dieu, ce sacrifice devait être un sacrifice sanglant et le sang devait être répandu. Donc il y a les heures de l'expiation, la mort, le sang versé. Les trois choses sont présentées de façon extraordinairement clair dans les évangiles, les deux dernières en particulier en Jean. Non, toutes les évangiles nous le disent tous. Le voile déchiré est ramené en Luc aux heures de l'expiation, à la mort de Christ dans Matthieu et Marc. Jean seul nous parle du sang répandu et du témoignage du sang qui, avec celui de l'eau et de l'esprit, nous montre que la vie est dans le Fils et que la vie ne peut être communiquée que par la mort du Fils de Dieu. Alors, ne séparons pas ces choses, mais nous pouvons les distinguer comme la parole nous enseigne à le faire. Avant d'essayer de trouver quelques instructions pour nous, croyants, indépendamment de l'appel solennel et touchant qui a été adressé à toute âme d'homme qui ne comprendrait pas encore que Christ est son Sauveur, il faut dire que dans ces sept paroles, la quatrième parole, est l'expression de la douleur absolue. Avant, les trois premières nous présentent ce que sont les résultats, les œuvres, les fruits de la vie divine, en Christ en perfection. Et les trois dernières, celles qui sont prononcées par le Seigneur Jésus après les heures de l'expiation, sont l'expression, la manifestation, la preuve de la vie divine. Alors en Christ, ces choses sont présentées en plénitude et en perfection, et nous sommes invités à par la foi saisir quelque chose qui nous fasse du bien pour notre vie chrétienne, qui soit un encouragement et un enseignement.
Tout à l'heure, on a parlé des différentes personnes qui étaient là autour de la croix du Seigneur. Ce qui a été aussi la part de ceux qui étaient là comme pour un spectacle, ceux qui étaient loin. Mais il y a quelqu'un d'autre qui était attentif à ce qui se passait sur la croix. C'est celui qui a déchiré le voile. Et si d'un côté, il y a cette œuvre du Seigneur vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ceux qui sont des hommes, il y a le côté de l'œuvre du Seigneur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Père. Et ce que nous ne pouvons pas sonder, ce que nous ne pouvons pas comprendre, lui l'a sondé, et la satisfaction qu'il en a eue quant à la perfection de l'œuvre de son Fils a fait que le voile est déchiré. Quand nous voyons dans le verset 45 de notre chapitre 23, à la fin des heures de ténèbres, le voile est déchiré par le milieu. Et aujourd'hui, à cause de la satisfaction de Dieu dans l'œuvre du Seigneur, à cause de cette satisfaction, alors nous pouvons nous approcher. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'œuvre du Seigneur est parfaite. C'est parce qu'il a pleinement satisfait Dieu. Et c'est parce que, à cause de cette perfection, alors nous pouvons nous approcher de lui.
Cette œuvre unique de Christ, nous voyons la réalisation, l'accomplissement parfait de tout ce qu'étaient les sacrifices autrefois dans le Lévitique. Et nous savons que le sacrifice le premier présenté était l'Holocauste, nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean. De l'autre côté, du côté de l'homme vers Dieu, c'était le sacrifice pour le péché, le sacrifice pour le délit. Et clairement, c'est Matthieu qui nous présente ce côté-là. Les relations sont plus difficile à trouver dans les autres évangiles. Mais cette chose doit être examinée de façon globale. Au même moment où Christ a été fait, aux heures de l'expiation, péché pour nous, quelqu'un a écrit, M. André Gibert, à aucun moment le Fils n'était plus précieux pour le cœur du Père. Il était abandonné, mais il s'offrait en offrande parfaite, en holocauste saint, d'agréable odeur, une chose merveilleuse. Le cœur de l'homme, même croyant, ne peut pas sonder.
La personne qui se trouve au centre de cette scène, ce n'est pas seulement un homme. Il était venu comme homme, la parole devint chair. Il était Dieu, Dieu le Fils. Il est important d'avoir présent dans l'âme ce qu'était cette personne. Sans doute insondable pour l'âme. Nous ne pouvons pas pénétrer ce qu'était cette personne, mais nous recevons ce que la parole nous en dit. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Néanmoins, ce n'est pas le sang d'un homme, de celui qui n'était qu'un homme, qui pouvait ôter les péchés. Ce n'est pas non plus par l'incarnation que les hommes sont sauvés, c'est par l'œuvre de la croix qui est devant nous. Le Seigneur était le Fils du Père, le Fils de Dieu. il était comme aussi fils de l'homme, l'homme Christ Jésus. Le Seigneur a dit de lui-même, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était Dieu. C'est important de nous souvenir de la gloire ineffable de sa personne, en particulier dans ce moment. Il était celui qui accomplissait la volonté de son Père. Il était toujours le Fils unique qui est dans le sein du Père pour faire connaître Dieu, pour le révéler, mais aussi pour accomplir de sa part ce sacrifice de lui-même et de glorifier Dieu dans sa mort.
En Jean 15, maintenant ils ont et vu et haï et moi et mon Père. C'était clair. Le peuple juif, parce qu'il sait bien d'eux dont il s'agit ici, pardonne-leur, ceux-là c'était les juifs. Le Seigneur ne s'occupait actuellement que du peuple juif et des nations viendraient plus tard. Deux paroles ont été prononcées par le peuple juif. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants, nous n'avons pas d'autre roi que César. Et c'est ce qui explique le désastre de leur histoire depuis 20 siècles. Et pourtant, la culpabilité est établie, ils ont eux-mêmes prononcé leur propre jugement. Eh bien, je ne vois pas comment qui que ce soit d'autre que le Seigneur aurait pu avoir une profondeur de grâce, de douceur, de bonté à l'égard de ce peuple qui n'en avait pas pour lui. Alors là, évidemment, la leçon est évidente et immédiate. Mais peut-être avant de la tirer, il vaut mieux s'arrêter un petit moment sur cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il y avait autrefois, donc, les dispositions de la loi, notre frère vient de le rappeler, étaient absolument intolérantes. C'était la mort assurée pour celui qui commettait volontairement un péché. Par contre, s'il y avait ignorance, s'il n'y avait pas préméditation, il y avait une source, un refuge, les villes de refuge, les six villes de refuge dans la terre d'Israël. Celui qui avait commis qui avait pris la mort, la vie de son frère sans le faire exprès, sans préméditation, devait s'enfuir, et là rester caché jusqu'à la mort du grand souverain sacrificateur. Seigneur, pour ainsi dire, ouvre la disposition de la loi sur les villes de refuge à ce peuple-là, qui était bien volontairement coupable, mais Seigneur leur donne quand même la provision de l'ignorance et la possibilité du pardon. En fait, le peuple est sorti de sa ville de refuge avant la mort du souverain sacrificateur. Où sont-ils redescendus? Eh bien, ils sont descendus à lapider Étienne. Ils n'ont pas su saisir la grâce qui leur a été donnée. La suite du passage de l'acte 3 est de façon merveilleuse. Il nous est dit que des temps de rafraîchissement auraient pu être annoncés. Le Seigneur, il était encore debout à la droite de son Père. Si le peuple juif avait écouté, rien n'empêchait le Christ de venir bénir son peuple à ce moment même, puisque l'œuvre était accomplie selon laquelle maintenant le peuple pouvait être béni.
Priez pour les Juifs. Ils savaient parfaitement qu'ils n'avaient rien fait de mal. Ils l'avaient refusé, les chefs du peuple l'avaient refusé absolument. Ils avaient osé dire à Pilate, si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. C'est incroyable, ça. Quel mal avait-il fait? Ils avaient entendu aussi, de multiples fois, et déjà dans l'évangile selon Jean, on voit par exemple, trois fois, il est répété, mais je ne trouve rien, pas de mal en lui, il est vraiment cet agneau sans défaut, sans tache. Alors ils savaient qu'ils avaient livré un innocent, mais ils n'avaient pas certainement mesuré la portée de ce qu'ils faisaient. Et quelle était la personne qui était là. Et le Seigneur dit, ils ne savent ce qu'ils font. Et on a parlé tout à l'heure des villes de refuge. Quand il y avait un crime involontaire, un accident, alors il y avait ces villes de refuge dans lesquelles il fallait s'enfuir. Celui qui avait fait l'homicide involontaire devait s'enfuir dans cette ville. Et le premier message que l'Esprit de Dieu a donné par Pierre dans Acte 2. Donc le Seigneur, quand il a prié en disant « Pierre, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », il dit en quelque sorte que l'homicide qu'ils sont en train de faire est un homicide involontaire. Ils n'ont pas compris. Et après le premier message de Pierre dans Acte 2, il va Il va dire au acte 2, verset 40, il dit, par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous. Et beaucoup se sont sauvés, sont partis, en quelque sorte, en courant vers cette ville de refuge, vers le Seigneur Jésus. Sauvez-vous de cette génération. Et nous retrouvons la même pensée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Quand il y a cette expression, au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, au verset 18, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée. Sauvez-vous, ils se sont enfuis. Et plusieurs se sont enfuis. Le jour de la Pentecôte, un grand nombre se sont sauvés pour bénéficier de ce pardon que le Seigneur Jésus a invoqué sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Quel est le moment particulier dans lequel il prononce ces paroles? Quand on lit dans l'Évangile selon Matthieu, versets 39 à 41, ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête, et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Pareillement aussi les principaux sacrificateurs, donc tous ceux qui passent, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, se moquant, disaient, « Il a sauvé les autres. » Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix. Et nous croirons en lui. Que de provocation. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre. Maintenant, s'il tient à lui, provocation vers Dieu. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Et les brigands aussi, les deux, qui étaient crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Même tout près de lui, ils l'insultaient aussi. En principe, dans nos civilisations, quand quelqu'un est là et va mourir, on fait silence. Et notre Seigneur n'a même pas eu droit à ce respect. Et quand on lit ce qu'il peut ressentir, en quelque sorte, on le trouve dans le psaume 22. Dans le psaume 22, nous avons cette parole prophétique, mais c'est bien lui-même qui a pu dire cela. Ce moment où il ressent cette haine qui est arrivée à son paroxysme. Ce qui avait dit peu avant, et pourtant averti, « Crucifie, crucifie-le !» Et comme on l'a rappelé, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants !» Quelle confiance ! Verset 11 de ce psaume 22, « Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche. » C'est à ce moment-là où notre Seigneur peut dire, non pas aux hommes, il n'a rien à dire aux hommes, mais à son Père. Père, pardonne-leur. Mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de notre Dieu Sauveur. Voilà, c'était le moment de la révélation de cette vérité. C'est quoi ? La vie éternelle. Il n'y a personne qui secourt. Beaucoup de taureaux m'entouraient, les puissants de Bazan. Oui, ils m'ont entouré. Les chefs du peuple sont là. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Oui, c'est à ce moment-là. Et je suis répandu comme de l'eau. Le crucifié qui est là, tous ses os se déjoignent. Ma vigueur est desséchée comme un thé, verset 15. Ma langue est attachée à mon palais et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Car des chiens m'ont environné, les peuples, le peuple, les Romains, toute cette foule, une assemblée de méchants m'entouraient, ils ont percé mes mains et mes pieds. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle confiance dans son Père, mais quelle douleur pour lui. Et malgré cela, oui, c'est ça la grâce. C'est le cœur plein de pardon qui s'exprime. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, peut-être que si nous avions été là,
nous aurions crié aussi, crucifie, crucifie-le. Peut-être que nous nous serions moqués de lui en le regardant. C'est aussi pour nous cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font.